allons continuer ce traité sur la grâce. Vous voyez donc, nous arrive la première question, la nécessité de la grâce. Voir comment la grâce s'enracine dans notre vie humaine et où elle est nécessaire pour que notre vie humaine soit parfaitement vécue. Puis nous avons vu, après cette nécessité de la grâce, le point de vue de l'essence de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Alors, comprenez bien, quantum ad essentiam, ce serait intéressant. L'essence de la grâce, on ne sait pas ce que c'est. Si je savais ce que c'était que l'essence de la grâce, je saurais ce que c'est que la très sainte Trinité. Alors c'est très curieux, là. On pourrait s'arrêter là-dessus, au point de vue proprement expression de saint Thomas. Saint Thomas dit toujours, à propos du traité de Dieu, qu'on ne saisit pas le quid de Dieu, on saisit le commodo, et le commodo non sit. Alors c'est très curieux qu'à l'égard de la grâce, il met Deinde considerandum est de gratia quantum ad essentia. Oui. Alors c'est parallèle à d'essentia dei. Et on ne connaît pas ce que c'est que l'essence de Dieu. On ne connaît que le commodo non sit. C'est la même chose pour la grâce. Je ne connais pas le quid de la grâce. Je ne connais que le commodo non sit. Mais c'est important parce que si vous lisez cette question en cherchant ce que c'est que l'essence de la grâce, vous verrez que vous n'avez pas grand-chose du quid. Vous essayez de comprendre la grâce dans la réalité, dans l'âme. Voyez, et au fond, c'est essayer de voir comment se situe la grâce. La grâce est-elle une réalité dans l'âme? Si elle est une réalité, peut-on la considérer comme une qualité? Oui. Et quand on dit qualité, on veut montrer justement qu'elle n'est pas une substance. S'il en est ainsi, est-il autre chose qu'une vertu infuse? Et quel est le sujet de la grâce? Donc l'enracinement. Oui. Vous ne saisissez pas le quid de la grâce. Le quid de la grâce nous échappe. Alors, c'est intéressant de mettre en parallèle avec toute la recherche de saint Thomas sur l'essence de Dieu, mais il précise bien qu'on ne connaît pas l'essence de Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour la grâce. Vous voyez, encore plus, j'allais dire. On connaît moins l'essence de la grâce qu'on ne connaît l'essence de Dieu. Puisque la grâce est au niveau surnaturel. Donc c'est au niveau de la très sainte Trinité. Mais c'est au niveau des trois personnes divines. C'est au niveau de la vie même de Dieu. Alors ensuite, nous allons maintenant entrer dans les diverses espèces de grâce. Alors c'est la division. Toujours, il faut essayer de saisir l'ordre de ces questions successives, pour saisir l'ordre scientifique, et nécessité au point de vue de la finalité. L'essence, la structure de la grâce et le comment de la grâce, le commodo non sit, et ici la diversité, comment nous pouvons préciser les différentes manières dont la grâce s'enracine en nous et comment la grâce nous déiforme. Vous voyez, quand on commence, l'essence de la grâce est déterminée, tout ça c'est une glose marginale. Saint Thomas ne dit pas ça. Il faudrait le mettre entre parenthèses. Parce qu'il faudrait dire tout de suite Deinde considerandum est de divisione gratiae. Tandis que là on dit l'essence de la grâce étant déterminée. Pas du tout déterminée. Mais ce sont toutes ces petites choses-là qui nous mettent dans une perspective qui n'est pas tout à fait exacte. Oui.
On ne connaît pas l'essence de la grâce en tant que participation à la nature divine, mais on le connaît par rapport au sujet que vous avez
dit. Et donc on ne connaît pas l'essence. Non, le commodo. Par rapport au sujet, c'est le commodo. C'est la manière d'exister. Oui, c'est pour ça que je dis le commodo. C'est la manière d'exister, c'est par rapport au sujet. Quelle est sa manière d'exister? Sa manière d'exister, c'est justement d'exister dans un sujet spirituel. Alors, c'est le komodo. Vous voyez ? Tandis que le quidsit, c'est de saisir exactement ce qu'elle est.
Alors, on dira, c'est la nature, participation, la nature, une nouvelle nature.
Une nouvelle nature. Et les deux analogies que je vous disais, les deux analogies, il y a deux analogies dans cette question sur qu'est-ce que c'est que la grâce. Il y a deux analogies. L'analogie de la nouvelle nature, la nouvelle naissance, et l'analogie de la vertu.
Ce serait l'essence
de l'entité, d'habitus. Quoi ?
Ce serait l'essence d'une part ou le komodo d'une part ?
Non. C'est des deux côtés. C'est le komodo non sit. Des deux côtés, c'est le komodo non sit. C'est une nouvelle naissance. Donc le sujet est impliqué. Vous voyez ? Et un habitus, le sujet est impliqué. Alors c'est une précision, comme toujours dans les deux analogies, il y a une analogie plus fondamentale et une analogie qui précise plus. Puis c'est tout. Vous voyez ? Mais je crois qu'il faut prendre. C'est intéressant parce que Saint-Amand ne précise pas, mais c'est présupposé précisé, étant donné qu'on est en théologie et que c'est toujours dans la lumière de Dieu qu'on voit tout cela. Dans la lumière du Dieu créateur, dans la lumière du Dieu trine. Hein, c'est toujours les deux grandes lumières que nous avons au point de vue philosophique, au point de vue théologique. Hein, il est bien évident que le traité de la grâce, c'est sous la lumière du Dieu trine. C'est Dieu trois personnes, et dans cette lumière-là. Puisque c'est une participation à la nature de Dieu. Mais, alors maintenant, nous allons essayer d'entrer dans la division de la grâce. À ce sujet, nous avons à nous demander... Est-il juste de diviser la grâce en grâce donnée gratuitement et en grâce qui nous rend agréable à Dieu ? Première distinction. Vous allez voir que ces distinctions-là se prennent tous évidemment de l'Écriture. Hein ? Deuxièmement, cette dernière, c'est la question 111, cette dernière à son sujet se divise-t-elle en grâce opérante et en grâce coopérante ? C'est toujours très important la question de la division. On la reprendra au terme. Hein. La même grâce qui rend agréable à Dieu peut-elle encore être divisée en grâce prévenante et en grâce subséquente ? Ça, c'est des distinctions de saint Augustin. Y a-t-il une division à introduire dans la grâce donnée gratuitement ? Tout l'aspect des charismatiques. La grâce donnée gratuitement est-elle supérieure à la grâce qui rend agréable à Dieu ? Pourtant, une fois qu'on a une division, alors vous voyez que la division fondamentale, c'est évidemment celle qui est donnée dès le premier article. Est-il juste de diviser la grâce en grâce agréable à Dieu et en grâce donnée gratuitement ? Vous voyez, c'est très délicat. Alors, prenons tout de suite les objections pour essayer d'entrer dedans. La grâce, nous le savons, est un don de Dieu. Or l'homme n'est pas agréable à Dieu parce que Dieu. Or l'homme n'est pas agréable à Dieu parce que Dieu lui a donné quelque chose. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Si Dieu donne quelque chose gratuitement à l'homme, c'est parce que l'homme lui est agréable. Donc, il n'y a pas de grâce qui rend Donc il n'y a pas de grâce qui rende agréable à Dieu. Être agréable à Dieu présuppose le don de la grâce. C'est simplement ça l'objection. Intéressant au point de vue, qu'est-ce que c'est que la grâce ? Qu'est-ce que c'est qu'être agréable à Dieu ? Vous voyez, on revient sur la question première, souvenez, sur les noms de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, quand on prend les différentes manières dont on peut parler de langage. Le langage usuel nous présente trois acceptions du mot grâce. Et il est toujours ça en vue. Hein ? Et la première objection reprend cela. Deuxième objection. Tout ce qui n'est pas accordé comme récompense pour des mérites antérieurs est donné gratuitement. Mais le bien naturel lui-même est donné sans mérite antérieur, puisque le mérite suppose la nature. Donc la nature, tout aussi bien, est donnée gratuitement par Dieu. Pourtant, la nature est d'un autre genre que la grâce. C'est donc à tort que l'on fait de la gratuité une différence entre les différentes espèces de grâce, puisque ce caractère se trouve même en dehors de la grâce. Ça, c'est très très joli. Tout ce qui vient de Dieu nous est donné gratuitement. Donc si tout ce qui vient de Dieu nous est donné gratuitement, ne faisons pas de la gratuité une espèce particulière, puisque c'est général. Dieu agit toujours gratuitement. On est enveloppé de la gratuité de Dieu. Si on est enveloppé de la gratuité de Dieu jusque dans le mystère de la création, mais ne faisons pas de la gratuité une espèce particulière de grâce. Alors, les objections essaient de montrer que la division que nous faisons là n'est pas adéquate. C'est pour ça que c'est assez astucieux. C'était là, on voit bien ce que c'est que les objections. Les diverses espèces en lesquelles on divise un genre doivent s'opposer entre elles. La grâce qui nous rend agréable à Dieu et nous justifie nous est également concédée gratuitement. Justifié gratuitement par sa grâce, dit l'Épître aux Romains. Donc, il ne faut pas faire de la grâce qui nous rend agréable à Dieu une espèce différente de grâce, distinguée, différente de la grâce donnée gratuitement. Si on divise adéquatement, c'est tout ce que c'est que la division. Il faudrait comprendre ce que c'est que la division au point de vue logique. Qu'est-ce que c'est que diviser ? Quand on divise, on prend deux points de vue qui s'opposent l'un à l'autre. Je divise animal en raisonnable en rationnel et irrationnel. Ce qui est rationnel ne peut pas être irrationnel, ce qui est irrationnel ne peut pas être rationnel. Ça, c'est la division la plus typique, hein. Diviser animal en... Alors, donc, pour toute division, il y a quelque chose de commun. Et puis, il y a deux espèces qui s'opposent. Vous voyez bien, les différentes espèces en lesquelles on divise un genre doivent s'opposer entre elles. Or, justement, quand on divise la grâce de cette manière-là, on n'est pas du tout dans cette manière-là. C'est l'éclatement de la logique par rapport au surnaturel. Voilà ce qu'on pourrait dire. C'est intéressant, vous voyez, cette question est intéressante pour bien saisir ce que représentent les questions qui introduisent.
Les objections qui introduisent.
Cependant, c'est l'apôtre qui distingue ces deux caractères que possède la grâce, de rendre agréable et d'être gratuite. La première, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous a rendus agréables en son Fils bien-aimé. Le second, dans l'Épître aux Romains, si c'est par grâce, ce n'est donc pas par une suite des œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. On peut donc mettre d'une part la grâce qui ne présente qu'un de ces deux caractères et d'autre part celle qui les possède tous les deux. Donc voyez bien la manière dont saint Thomas procède. Si je regarde l'Écriture, je vois qu'il y a deux manières de regarder la grâce. Nous rendre agréable à Dieu et donner gratuitement. Alors, le théologien va se demander si cette distinction que nous trouvons dans l'Écriture est une distinction qui peut s'appuyer sur un aspect intellectuel. Cette distinction est-elle intelligible ? Porte-t-elle quelque chose d'intelligible ou est-elle tout simplement gratuite ? Vous donnez comme ça. Saint Paul a écrit ça parce qu'il écrivait d'une part aux Éphésiens et d'autre part il écrivait aux Romains. Alors c'est deux choses tout à fait différentes. Et en fonction des Éphésiens et en fonction des Romains, il écrit autrement. Oui, point de vue de l'exégèse là. Hein, je regarde le contexte dans lequel Saint Paul. Exactement, on ne regarde pas beaucoup le contexte. Hein. C'est complètement abstrait du contexte. Il prend tout simplement dans une vision les deux manières dont on parle de la grâce. On en parle comme ce qui nous rend agréable à Dieu, on en parle comme ce qui nous est donné gratuitement. Et, tandis qu'au contraire, si j'étais dans une perspective exégétique, je regarderais le point de vue des Éphésiens et le point de vue des Romains. Et alors je regarderai l'intention, quand vous écrivez deux lettres différentes aux Éphésiens et aux Romains, vous ne l'écrivez pas de la même manière. Quand vous écrivez au grand-père, ou quand vous écrivez à des fils révoltés, mais vous n'écrivez pas de la même manière, et vous ne présentez pas le mystère de la même manière. Alors, on voit très bien. Et quelqu'un vient après, la structure des deux lettres est différente, deux aspects différents. C'est très intéressant aujourd'hui de bien saisir ça. L'apôtre écrit dans l'Épître aux Romains, ce qui vient de Dieu est ordonné. La troisième manière. Ça, c'est pas dans le 7 contre 1. Ce qui vient de Dieu est ordonné. Quae ado sunt ordinata sunt. Ça, c'est une grande majeure de toute la théologie de l'économie divine. Vous voyez, ça pourrait se mettre au-dessus de tout. Hein. Tout ce qui vient de Dieu est ordonné. Tout ce qui vient de Dieu n'est pas anarchique. Tout ce qui provient de Dieu implique un ordre de sagesse. Or, c'est là l'ordre établi entre les créatures que certaines d'entre elles soient ramenées à Dieu par d'autres, ainsi que le montre Denis dans les hiérarchies célestes. Alors, tout de suite, cette ordinata sunt va être précisée par Denis. C'est l'ordre établi entre les créatures que certaines d'entre elles soient ramenées à Dieu par d'autres. Donc cet ordre n'est pas seulement relatif à Dieu, mais à l'intérieur de cette relativité à Dieu, il y a encore un ordre entre les créatures. Ici, l'autorité de Denis. La grâce, ayant précisément pour but de rattacher l'homme à Dieu, cet ordre doit être suivi et certains seront ramenés à Dieu par d'autres. Dès lors, il faut distinguer deux sortes de grâce. Oui, le procédé, hein, très très intéressant au point de vue théologique. Dès lors, il faut distinguer deux sortes de grâce. La première qui unit l'homme lui-même à Dieu. C'est la première qui unit l'homme lui-même à Dieu, c'est la grâce qui rend agréable à Dieu. La seconde qui fait qu'un homme en aide un autre à revenir à Dieu. Cette dernière s'appelle grâce donnée gratuitement. Parce que concédée à l'homme, elle dépasse et la puissance de sa nature et ses mérites personnels. Le double dépassement. Donc, vous voyez, le double ordre. La distinction que je vois dans saint Paul sur la grâce, je l'éclaire par une division beaucoup plus générale. La division beaucoup plus générale de l'ordre de la sagesse de Dieu. L'ordre de la sagesse de Dieu doit s'entendre de deux manières. L'ordre immédiat à Dieu, l'ordre à l'intérieur des créatures. Vous voyez, ça revient au double précepte de l'amour. Il y a comme une unité beaucoup. On aurait pu prendre ça aussi. Hein. Il y a un double précepte d'amour. Aimer Dieu, aimer le prochain. Donc il y a deux ordres. Et saint Thomas prend ici plutôt la grande affirmation de l'économie divine. De l'économie divine. Mais on aurait pu très bien prendre ça aussi. D'autre part, elle n'est pas donnée pour que celui qui la reçoit y trouve sa justification, mais pour qu'il coopère à la justification d'un autre. C'est pourquoi, vous voyez, second, c'est de l'ordre de la charité fraternelle. Donc, seconde raison, d'autre part, fait appel directement au précepte d'amour. Aimer Dieu et aimer le prochain. D'autre part, cela n'est pas donné pour que celui qui la reçoive y trouve sa justification, mais pour qu'il coopère à la justification d'un autre. Donc cette seconde raison se prend du côté de la finalité. C'est pourquoi elle n'a pas le nom de grâce qui rend agréable à Dieu. C'est à son sujet que l'apôtre dit dans la première épître aux Corinthiens, la manifestation de l'Esprit est accordée à chacun pour être utile, c'est-à-dire pour servir d'autres. Donc, vous voyez deux grandes raisons que prend saint Thomas ici, pour essayer de comprendre la division de la grâce, comment la grâce se divise. Je regarde d'une manière générale l'ordre de la sagesse. Le propre du sage est d'ordonner. Comme toute l'économie divine dépend de la sagesse de Dieu, toute l'économie de vie n'a plus qu'un ordre. Cet ordre, il s'agit bien de comprendre, il est double. On est ordonné verticalement, on est ordonné horizontalement. Dans la psychologie, dans le point de vue d'aujourd'hui, l'horizontal et le vertical. Hein? Alors, il y a un ordre de l'homme vis-à-vis de Dieu, il y a un ordre de l'homme vis-à-vis de l'autre. Il est mandaté par Dieu, il est envoyé par Dieu vis-à-vis d'un autre. Et ceci, c'est Denis, la hiérarchie. On comprend, c'est Denis. La parole de l'Écriture est Denis, la tradition, qui insiste sur l'horizontal. Hein? Bon, ça c'est la première raison. Par là, je comprends comment la grâce à la fois m'ordonne vers Dieu et comment la grâce m'ordonne vers le prochain. Donc, alors c'est très curieux. Hein? C'est ordonner vers Dieu, être agréable à Dieu, ordonner vers le prochain, la gratuité. La gratuité existe des deux côtés, mais de fait, quand il s'agit d'être ordonné vers le prochain, il y a une double gratuité. Et c'est pour ça que la gratuité est manifestée ici. Il y a une double gratuité. Parce que je suis ordonné vers le prochain, je suis envoyé vers le prochain pour l'aider. Seconde raison, ça c'est la structure de l'ordre, je dirais. C'est la structure de l'ordre. Et c'est premier, puisque une division de la grâce va se prendre à l'intérieur même de cet ordre. Deuxième raison de saint Thomas, le point de vue de la fin, la finalité. La grâce possède une double finalité. Une finalité relativement à Dieu, une finalité relativement au prochain. Alors, la finalité relativement à Dieu me rendre agréable à Dieu, la finalité vis-à-vis du prochain me rendre utile au prochain. Et c'est me rendre utile au prochain où je vois cette gratuité. C'est très curieux au point de vue. Manière de bien saisir l'intelligibilité profonde de ce qu'affirme saint Paul. Je dirais d'un côté structure formelle de l'ordre, de l'autre côté la finalité. Alors répondons maintenant aux questions. La grâce ne rend pas agréable à la façon d'une cause efficiente, mais à la façon d'une cause formelle. Gratia non dicitur facere gratum, effectiver cette formalité. C'est-à-dire que l'homme qui la possède se trouve justifié et devient digne d'être appelé l'ami de Dieu. Filichet quia per hunc homo justificatur et dignus efficitur vocari Deo gratus. Devient digne d'être appelé l'ami de Dieu. C'est le mot de l'épître aux Colossiens. Il nous a rendu digne d'avoir part au sort des saints dans la lumière. Dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine. Donc voyez l'objection portée sur ce fait. L'homme n'est pas agréable à Dieu parce que Dieu lui a donné quelque chose. C'est plutôt le contraire qui est vrai. Si Dieu donne quelque chose gratuitement à l'homme, c'est parce que l'homme lui est agréable. Donc, il n'y a pas de grâce qui rende agréable à Dieu. Être agréable à Dieu présuppose la grâce. L'objection, la réponse, pas du tout. Être agréable à Dieu, c'est la grâce. C'est l'effet propre de la grâce. Oui. Donc c'est antérieur. Et c'est pour ça qu'il montre bien que l'effet propre de la grâce, l'effet propre de la grâce, c'est de nous rendre agréables à Dieu. C'est par la grâce que je suis agréable à Dieu. Et donc, être agréable à Dieu ne présuppose pas la grâce. Oui. faut bien saisir ça, faut bien saisir cette objection. Et saint Thomas répond d'une façon très précise par le point de vue de la causalité efficiente et de la causalité formelle. Oui. La causalité efficiente, ce serait justement la grâce ne rend pas agréable à Dieu à la façon d'une cause efficiente, mais à la façon d'une cause formelle. Je suis rendu agréable à Dieu par la grâce. Mais par la grâce n'est pas une cause efficiente. Par la grâce, c'est justement la grâce qui me qualifie. Qui me qualifie d'être agréable à Dieu. Et donc, ne distinguons pas être agréable à Dieu et la grâce, selon un ordre d'antériorité. Ce serait réintroduire une causalité efficiente. Tandis qu'au contraire, selon la cause formelle, il n'y a pas d'antériorité. C'est par la grâce que je suis agréable à Dieu. Oui, il y a une question de langage qui est là analysée. C'est une analyse du langage dans une lumière philosophique, dans une lumière théologique. Oui, à ce point de vue-là, c'est intéressant. Oui.
Dites. Quand on a par la grâce, il n'est pas agréable à Dieu.
Non, c'est évident. C'est par la grâce que vous êtes agréable à Dieu.
Quelqu'un qui va baptiser, on ne peut pas l'appeler agréable à Dieu.
Mais non, c'est sûr, c'est par la grâce. Mais je ne sais pas, il peut la grâce peut-être donner en dehors du baptême. Heureusement.
De manière d'être agréable à Dieu, sans avoir le baptême, et puis...
Mais non, parce que c'est... vous voyez, c'est la grâce qui vous rend agréable à Dieu, c'est pas le baptême. Donc je ne peux pas distinguer les deux. C'est la grâce qui vous rend agréable à Dieu. Alors, je ne sais pas qui est agréable à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le baptême, mais qui a la grâce parce qu'il fait vraiment en conscience tout ce qu'il lui semble juste d'être fait. C'est une âme de bonne volonté. Ben, il est agréable à Dieu. Et il a la grâce. Oui. Avant la grâce, votre nature humaine, vous êtes aimé de Dieu parce que vous êtes créé par Dieu, mais vous n'êtes pas agréable à Dieu. C'est pas la même chose. Ah oui, ça me fait du bien. Il y a la gratuité du geste du Créateur. Dieu crée votre âme humaine. Mais non, il faut prendre agréable au sens très fort. Hein. Vous êtes bon naturellement. Mais vous n'êtes pas naturellement agréable à Dieu. Vous voyez, il faut prendre agréable dans le sens, vous voyez, dans le sens, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Oui. On est agréable à Dieu quand Dieu met toutes ses complaisances en nous. Alors, il faut prendre agréable au sens très fort. Hein. C'est pour ça que je dis, il faut revenir, vous voyez, regardez bien et attentivement ce qui est dit à la question 110, article 1er. Oui, c'est directement ça. Le langage usuel nous présente trois acceptions du mot grâce. D'abord, ce mot signifie l'amour d'un personnage récent pour quelqu'un, et ainsi de suite. Vous voyez, nous l'avons vu. Alors, il faut bien saisir ici, il faut bien saisir, du reste, comme une réponse à l'objection. Alors, seconde réponse. Alors, la question, tout ce qui n'est pas accordé comme récompense pour des mérites antérieurs est donné gratuitement. Donc, la distinction entre ce qui est donné gratuitement avant tout mérite et ce qui est donné comme une récompense. Étant accordé gratuitement, une grâce est par définition ce qui n'est pas dû. Tandis qu'au contraire, ce qui est la récompense est due. C'est la différence entre les deux. Ce qui est donné gratuitement, évidemment, c'est donné au-delà du mérite. Mais une chose peut être due à un double titre. Ou bien à cause d'un mérite, ceci pour les personnes à qui il appartient d'accomplir des actes méritoires. Selon cette parole de l'Épître aux Romains, le salaire est donné à celui qui a fait une œuvre comme une dette et non comme une grâce. Donc le salaire est donné à celui qui a fait une œuvre comme une dette et non comme une grâce. Ou bien une chose est due par suite des exigences de telle nature. Ainsi, nous disons que c'est un droit pour l'homme d'avoir la raison. et tout ce qui appartient à la nature humaine. C'est un droit pour l'homme d'être capable de sourire. C'est un homme pour l'homme d'être capable d'avoir un peu d'humour. Oui. D'ailleurs, ni dans l'un ni dans l'autre cas, on entend par là que Dieu ait des obligations envers la créature, mais plutôt que la créature doit rester sous le pouvoir de Dieu pour que l'ordre divin se réalise, qui veut que telle nature se trouve dans telle condition ou possède telle propriété, et que celui qui accomplit telle action reçoive telle récompense. Ceci dit, nous pouvons répondre que les dons naturels, s'ils ne sont pas dus au premier titre, sont cependant bien dus au second, tandis que les dons surnaturels ne sont dus à aucun titre. Et c'est pourquoi il y a une raison spéciale pour leur attribuer le nom de grâce. Donc saint Thomas essaie de comprendre toutes les manières dont on peut dont on peut distinguer quelque chose par rapport à la gratuité. Et il montre que la gratuité absolue, c'est celle de l'ordre surnaturel. Celle de l'ordre surnaturel n'a pas d'enracinement de quelque chose qui... raison spéciale pour leur attribuer le nom de grâce. Donc saint Thomas essaie de comprendre toutes les manières dont on peut dont on peut distinguer quelque chose par rapport à la gratuité. Et il montre que la gratuité absolue, c'est celle de l'ordre surnaturel. Celle de l'ordre surnaturel n'a pas d'enracinement de quelque chose qui est dû dans la nature, ni par rapport au mérite, puisque ce sont les deux choses qui nous sont dues. On fait des actes bons, et enfin, en fonction de ces actes bons, on a un certain droit. Hein ? Je vous aide à réaliser votre mémoire de licence, et bien à ce moment-là, vous me devez quelque chose. Petite gratuité, je vous ai aidé. Petite gratuité. Donc, à cause de l'action que j'ai faite, et que j'ai faite pour vous, alors se crée à ce moment-là un droit. Et puis, il y a l'autre droit en fonction de la nature humaine. La nature humaine a certains droits. Le débitum de la nature humaine, elle a certains droits. Bon, alors là, je vois les deux droits. Un droit naturel, un droit qui se fonde sur les opérations, des opérations agréables et bonnes. Eh bien, la gratuité de la grâce dépasse ces deux droits. Alors, enfin, le terme de grâce qui rend agréable à Dieu dit quelque chose de plus que la simple notion de grâce gratuite, et qui d'ailleurs reste bien dans le contenu du concept général de grâce, à savoir l'idée de rendre l'homme agréable à Dieu. Ad rationem gratiae. Vous voyez, c'est intéressant ici pour bien comprendre ce que c'est que la raison de grâce. Faire l'homme gratum Deo. Voilà la ratio gratiae. La raison de grâce, c'est de rendre l'homme agréable à Dieu. Rendre l'homme agréable à Dieu. Je dis, jette hominem gratum facit Deo. Le contenu général, disons, la raison de grâce, rendre l'homme agréable à Dieu. Quant à la grâce gratuite, qui ne produit pas ce résultat, elle garde le nom commun, comme il arrive en bien des classifications. quant à la grâce gratuite, qui ne produit pas ce résultat, elle garde le nom commun, comme il arrive en bien des classifications. Et ainsi, les deux parties de la division s'opposent bien, d'une part, de la grâce qui rend agréable à Dieu, d'autre part, celle qui ne rend pas agréable à Dieu. Alors, il faut bien saisir cette division, qui est une division très importante pour saint Thomas. C'est une division très fondamentale. C'est la première division de la grâce. Alors, première division de la grâce, qui doit toucher à ce qu'il y a de plus essentiel à la grâce. Ratio gratiae. Et c'est dans cette attertio que nous voyons bien, la ratio gratiae. On divise. Ça, c'est vraiment le théologien, le théologiste scientifique. Saisir la ratio gratiae. Qu'est-ce que c'est que la ratio gratiae? La ratio gratiae rend l'homme gratum a Deo. La grâce facit hominem gratum a Deo. La grâce rend l'homme agréable à Dieu. Cette notion est très importante. On rend agréable à Dieu. Vous voyez que dans la notion de grâce, le contenu le plus précis, c'est pas la gratuité. Et on comprend très bien. Parce que la gratuité, c'est la manière dont la grâce nous est donnée. C'est encore la cause efficiente. Tandis que rendre agréable à Dieu, c'est l'aspect formel de la grâce et l'aspect final de la grâce. Donc, et ça c'est très important, je ne comprends rien à la division de saint Thomas si je ne vois pas ça. Alors c'est curieux que c'est dans l'intention. Ça aurait dû être au cœur de l'article. Mais c'est présupposé, puisque cette question présuppose une autre. Et dans l'intention, saint Thomas rappelle, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui est divisé. Qu'est-ce qui est divisé? C'est la ratio gratiae. Donc, il y a une grâce qui rend agréable à Dieu. La grâce sanctifiante. Il y a une grâce qui nous est donnée gratuitement pour l'utilité des autres. Oui. Et cette grâce qui nous est donnée gratuitement pour l'utilité des autres, elle ne rend pas nécessairement agréable à Dieu. Vous pouvez recevoir le don de guérison et rester un très pauvre type. Vous pouvez recevoir le don de prophétie et ne pas être sanctifié directement par la grâce. La grâce gratuite ne nous donne pas des serments. C'est ça, c'est la fin de la conclusion. Parce que rendre agréable à Dieu, c'est la grâce qui nous sanctifie. Ça, c'est la grâce qui nous sanctifie. C'est le problème. C'est pour ça que la grâce est premièrement la grâce sanctifiante. Elle est premièrement la grâce sanctifiante. Parce que c'est là où la ratio gratiae est parfaitement réalisée. Tandis qu'au contraire, l'autre grâce, la grâce gratis, les grâces qui nous sont données gratuitement, on a pris ce mot, voyez, pour bien saisir cet autre aspect de la grâce qui est l'homme qui est au service. Service de l'homme. Il aide l'homme à se sanctifier. C'est la grâce gratuite. C'est ce qu'on appelle les charismes. Les charismes sont donnés au service des autres. Les charismes ne nous sont pas donnés pour notre propre sanctification. Ils sont donnés pour aider les autres. C'est pour ça qu'ils sont horizontaux. Vous voyez ? C'est l'ordre horizontal de l'homme par rapport à l'homme. De l'homme au service de l'homme. Et c'est bien du côté de la charité fraternelle. Oui ?
Est-ce possible d'exercer une vertu théologale sans la grâce sanctifiante ?
Mais non, je ne peux pas. Ah, possible. Les vertus théologales, c'est la grâce sanctifiante. C'est ce qui nous sanctifie. Vous voyez ? Les vertus théologales émanent. Mais les grâces, la grâce gratuite, ce n'est pas les vertus théologales. C'est les charismes. C'est d'ordre au service des autres. Oui ?
Je pense qu'il faut distinguer de la charité fraternelle, de la charité théologale,
oui,
qui nous rend quand même agréable.
Oui.
Et ces charismes qui
sont pour ordonner d'autres. Tout à fait, tout à fait. faut les distinguer. Mais ici, j'ai pris le fondement de l'ordre. Faisons attention. C'est parce qu'il y a la charité fraternelle qu'il y a les charismes.
Mais disons que quelqu'un peut avoir une très grande charité fraternelle sans charisme.
Tout à fait. Et c'est la distinction d'ici. La grâce sanctifiante ici. Vous voyez, la grâce sanctifiante, c'est la grâce qui nous sanctifie. La grâce gratuite, au contraire, c'est la grâce par rapport aux autres. Ici, j'ai montré le fondement de l'ordre. Vous voyez ? Il faut bien saisir le fondement. Le fondement de l'ordre, il est pris d'une part de la structure. C'est que dans l'ordre à l'égard de Dieu, il y a l'ordre par rapport à Dieu, par rapport à l'ordre. Et la finalité, c'est regarder Dieu, regarder le prochain. Alors, c'est pour ça que là, nous sommes en face du fondement. Ici, je précise formellement la grâce en disant l'une nous rend agréable à Dieu et nous sanctifie. Et l'autre, au contraire, nous met au service du prochain.
Oui. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un exercice des charismes sans de l'acte de charité de la part.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est deux grâces différentes. Mais il y a une grâce. Oui, Dieu se sert de nous. Et la grâce charismatique n'implique pas par elle-même la sanctification. Oui. Tandis que la charité fraternelle applique la sanctification, c'est bien évident. Mais elle relève directement de la grâce sanctifiante. Elle est liée à la charité. Oui. Et ce que je voulais ici, c'est montrer le fondement. Voyez, il n'y aurait pas de charisme s'il n'y avait pas de charité fraternelle. C'est pour manifester le service au prochain. La grâce de manifestation du service au prochain. Il faut être très net là-dessus, hein, c'est dit. Et c'est intéressant de voir comment saint Thomas se sert donc des textes de saint Paul. C'est pas saint Thomas qui le fait, c'est toute une tradition. Hein. Mais c'est quand même très précis. Hein. C'est quand même très précis. Il y a une précision du théologien, de théologie scientifique, qui se ramène directement à ce que saint Paul nous dit, pour nous faire saisir ces deux ordres dans l'ordre de la grâce. Oui.
Simplement, on peut dire que le nom commun de la grâce se prend de la raison de grâce.
Oui,
gratis. On peut dire que le nom commun se prend de la première acception que l'on a de la grâce, c'est-à-dire ce qui est donné gratuitement, et qu'ensuite on peut préciser au sujet de la grâce.
Tout à fait. Tout à fait.
Parce qu'on comprendrait beaucoup mieux alors pourquoi on appelle d'un même.
Fais attention. Le nom n'est pas la ratio.
Mais ça ne me semble bien
plus. Non, non, je crois pas. La dénomination n'est pas la ratio. Alors le nom, c'est la dénomination.
Oui,
mais c'est ce que je dis ici. Je dis, je prends la ratio gratiée. La ratio gratiée, c'est nous rendre agréable à Dieu. Donc là, je suis en face de la théologie scientifique qui précise la ratio gratiée. Vous voyez ? Tandis que la dénomination, c'est la gratuité. Toute grâce est gratuite. Vous voyez ? Toute grâce est gratuite. Ben, même les charismes, c'est gratuit. Donc, c'est du côté de la cause efficiente, la manière dont Dieu nous donne quelque chose qui est au-delà de nous. Alors là, je suis en face de la cause efficiente. Tandis que la ratio graciée, c'est la structure profonde de la grâce. C'est être agréable à Dieu. Et être agréable à Dieu, donc dans cette ratio graciée, ne se trouve parfaitement réalisé, évidemment, que dans la première grâce qui sanctifie.
Oui. La grâce gratuite reste bien dans le contenu du concept de la ratio de grâce, l'idée de rendre agréable à Dieu.
Oui, le terme latin, parce que la traduction, hein.
Oui, non, mais. La grâce gratuite.
C'est dans la tertium. Oui, c'est ça. Ideo gratis data, que hoc non facit, retinet sibi, nomen commune. Sicut in pluribus alis contingit. Le nom commun. Le nom commun, ce n'est pas être agréable, c'est la gratuité.
Oui, aussi, alors la phrase au-dessus.
Oui, aliquid supra rationem gratie gratis date, que etiam ad rationem gratie pertinent. C'est sûr. Quia chilichet hominem gratum facit Deo. Vous voyez ? Donc, la grâce, gratia gratum faciens, adit aliquid, supra rationem gratie gratis date. Quod etiam rationem gratis date pertinent. Quod chilichet, oui. Donc ça ajoute quelque chose. par rapport au nom commun. Le nom commun de la grâce, donné gratuitement. La ratio de la grâce, ça rend agréable à Dieu. Vous voyez ? Alors, il faut bien comprendre. Il y a deux aspects de la grâce, hein, et c'est pour ça que c'est intéressant cette division, parce qu'elle nous donne bien les deux aspects de la grâce. La grâce nous est donnée gratuitement. Toute grâce nous est donnée gratuitement, au-dessus de tout débitum. Et puis la grâce nous rend agréable à Dieu. Elle est donnée aussi gratuitement, mais elle nous rend agréable à Dieu. Donc elle ajoute quelque chose au-dessus du nom commun. Et elle nous fait agréable à Dieu. Et c'est cela qui est, de fait, le premier analogué, j'allais dire, de la grâce. Parce qu'elle nous montre les deux aspects de la grâce, donner gratuitement et rendre agréable. Tandis que la seconde partie, c'est uniquement elle donner gratuitement au service des autres, sans nous rendre agréable nécessairement à Dieu. Ça n'exclut pas, hein. Faut pas dire que ça l'exclut, mais ça ne l'inclut pas immédiatement. Et c'est en ce sens-là que c'est une division adéquate. Parce que cette division adéquate à l'intérieur de la grâce montre que d'une part, on a la grâce qui rend agréable et d'autre part, la grâce qui rend service. Elle nous met au service du prochain. Oui. Oui.
J'ai écouté cette notion, c'est sympa, qui dit que si j'ai la foi qui est transcendantale et pas la charité,
oui.
Je serai.
Oui, mais c'est pas la foi, faisons attention, c'est la foi charismatique. Hein. C'est pas la foi, c'est la foi miraculeuse. J'ai une foi extraordinaire, je fais des miracles, voyez la foi que j'ai. Vous voyez, c'est la foi qui transporte des miracles. La foi n'est pas premièrement pour transporter les montagnes. Elle est faite pour croire en Dieu. Mais il peut y avoir cet aspect charismatique, vous voyez, que je fais des gestes extraordinaires, vous voyez, j'ai une confiance absolue. Et si je n'ai pas la charité, c'est rien. La charité qui me sanctifie, qui me rend agréable à Dieu. Oui. Donc il faut bien saisir cette première division de la grâce, parce que ça me montre bien les deux aspects, le point de vue causalité efficiente, gratuité, causalité formelle et finale, sanctification.